Chapitre 45. La bonne hôtesse. Padaillan, comme nous l'avons dit, était entré dans Paris et, grâce à la médaille que lui avait remis Jacques Clément, avait pu circuler. En effet, les postes de bourgeois guerriers étaient innombrables. Chaque rue était barrée en deux ou trois endroits différents. Padaillan put parvenir jusqu'aux Deux Morts qui parlent, un cabaret qu'il avait autrefois fréquenté lorsqu'il était tenu par la digne Catteau. C'était une auberge de bas étage et très mal famée. Ribaudes et coupe-jarrets, telle était sa clientèle. Padaillan n'avait pas peur pour sa dignité. Quant à avoir peur pour sa peau, il n'avait jamais eu le temps d'y songer. De temps en temps, il aimait à se plonger dans ses cloaques. Cette nature fine et délicate ne répugnait pas au contact des natures grossières. C'était un des côtés incompréhensibles de son caractère. Pour le quart d'heure, d'ailleurs, il ne cherchait dans ce cabaret que la tranquillité absolue qu'il était sûr d'y rencontrer, tranquillité de l'esprit dans le tapage et les chants avinés qui ne le gênaient nullement. Il demeura deux jours enfermé là, riant et plaisantant avec les hôtes peu recommandables de l'endroit et réfléchissant parfois à ce qu'il allait devenir. Car c'était un peu pour réfléchir à son aise qu'il s'était réfugié en ce cabaret. Que diable vais-je faire de moi ? Fausta a voulu faire de moi un chef d'armée, un chef de conquérant ou de brigand, je ne sais plus au juste, et je n'ai pas voulu. Sa Majesté de Navarre a voulu faire de moi quelque chose comme un ministre, un pédant, un donneur de conseils ou d'eau bénite, je ne me souviens plus, et je n'ai pas voulu. Valois a voulu faire de moi un maréchal, un affameur de Parisiens, un pendeur de Guisards, ou je ne sais plus trop quoi de pareil, et je n'ai pas voulu. Mais moi, que vais-je faire de moi ? Au fond, Padaillan se sentait sollicité par deux résolutions qui ne le satisfaisaient ni l'une ni l'autre. La première, c'était d'accepter l'hospitalité qui lui avait été offerte à Orléans par Charles d'Angoulême et sa mère. La deuxième, c'était, comme il l'avait promis à Huguette, et comme il y songeait lui-même, d'aller se reposer à la Devinière. Il écarta promptement la première solution, et quant à la deuxième, il demeura en suspens. Le matin du troisième jour, Padaillan sortit à pied et s'en alla à la Devinière. Paris était en rumeur. Une joie énorme éclatait par les rues. On dansait, on tirait des bombardes, les gens portaient des écharpes vertes couleur d'espérance qui avaient été distribuées par Mesdames de Nemours et sa fille, la Duchesse de Montpensier. Cette joie, ces écharpes vertes, ces danses, ces clameurs, cette ivresse de tout un peuple, c'était Paris qui portait le deuil de la dynastie des Valois. Au premier cri qu'il entendit, Padaillan comprit que c'était fait. On vendait des placards où était imprimé le portrait de Jacques Clément, martyr et sauveur du peuple. Et comme on n'avait certes pas eu le temps de les imprimer depuis deux jours, Padaillan en conclut que ces placards avaient été préparés d'avance. « Pauvre malheureux !» songea le chevalier. « En voilà un qui aura payé cher quelques baisers de la boiteuse. »« Oh oh ! Que diable s'est-il passé à la Devinière ?» Il était arrivé rue Saint-Denis, devant le perron de la fameuse auberge, autrefois baptisée par Maître Rabelais en personne, du temps de Grégoire l'Ancêtre. La porte de la cuisine était murée. Au lieu de la porte vitrée qui surmontait le perron, c'était une belle porte en chêne plein, ornée de clous. Le perron lui-même était modifié et enrichi d'une belle rampe en fer forgé. L'enseigne avait disparu. La maison repeinte, avec des fenêtres neuves, vous avez un air bourgeois des plus cossus. Padaillan demeura 10 minutes tout étourdi et quelque peu chagrin. « La Devinière n'est plus, » fit-il dans un soupir. « Voilà bien la gloire de ce monde. Adieu, panier. » Vendanges sont faites. Il allait se retirer tout triste lorsque, sur le côté gauche de la belle porte en chêne, il remarqua une plaque de marbre sur laquelle était gravée une inscription. Il s'approcha curieusement et lut ces mots « Logis Padaillan ».« Logis Padaillan ?» répéta le chevalier avec stupeur. « Ah ça ! J'ai un logis à Paris, moi ? Et je n'en savais rien ?» Il faut, pardieu, que j'aie le cœur net de cette énigme. » Il escalada le perron et heurta le marteau. Une accorte servante ouvrit aussitôt, l'examina un instant et le pria d'entrer. Parbleu, songea le chevalier, puisque c'est mon logis. Et il entra dans la grande salle où une nouvelle surprise le fit cligner des yeux. En effet, si l'auberge n'était plus auberge à l'extérieur, elle l'était encore et plus que jamais à l'intérieur. Rien n'était changé à la grande salle. C'étaient les mêmes tables en chêne noircies par le temps et cirées par les coudes des buveurs, avec leurs pieds tordus. C'étaient les mêmes chaises à dossiers sculptés, les mêmes cuivres accrochés et reluisants comme de l'or. Et au fond, la même cuisine, avec le même âtre où flambait un bon feu. Pipo, le vieux chien Pipo, se roulait à ses pieds et se lamentait de joie, et Huguette, la bonne hôtesse, apparaissait, souriante, les bras nus, telle qu'il l'avait vue 100 fois, et comme autrefois, elle l'accueillait en bonne hôtesse en lui disant « Ah, monsieur le chevalier, c'est donc vous ? Vite, Margot, une bonne omelette pour monsieur le chevalier qui doit avoir faim. Vite, Gilette, à la cave, car monsieur le chevalier doit avoir soif. » Et Huguette s'avançait les mains tendues vers Pardaillan, qui l'embrassa sur les deux joues. « Voyons, cher ami, dit alors le chevalier, je n'ai pas faim et je ne mangerai pas votre omelette. Je n'ai pas soif et je ne boirai pas votre vin, mais je suis affamé, assoiffé de curiosité. Expliquez-moi donc. » « Tout ce que vous voudrez, dit Huguette en souriant. » Et tout à coup elle rougit, puis elle pâlit, son sourire devint triste et inquiet. Et ce fut d'une voix plus tremblante qu'elle ajouta « Voyons, que voulez-vous savoir ?»« Vous avez donc fermé la devinière ?» demanda Pardaillan, devenu pensif. « Mon Dieu, oui, monsieur. J'ai acquis une honnête aisance et j'ai pensé... Cette idée-là m'est venue un soir, au coin du feu, en regardant Pipo. J'ai pensé que je ne voulais plus être l'hôtesse dont le logis est ouvert à tout venant. » Mais cette salle demeurait salle d'auberge. Huguette dressa la tête. « C'est, fit-elle, que si la devinière n'existe plus pour personne au monde, j'ai voulu qu'elle existât toujours et que toujours, moi vivante, elle fût le bon gîte pour quelqu'un qui m'a promis de venir s'y reposer. « Monsieur le chevalier, ajouta-t-elle en levant la tête et en fixant sur lui ses beaux yeux humides de larmes, Huguette ne remplira plus jamais le verre de personne si ce n'est le vôtre. Huguette ne dressera plus jamais la table si ce n'est pour vous. La devinière n'est plus l'auberge de la rue Saint-Denis, elle est la bonne auberge réservée à vous seul, elle est le logis de Pardaillan. » Que voulez-vous, lecteur ? Cette fidélité, cette constance d'une si jolie naïveté, cette touchante délicatesse, cette idée adorable de fermer l'auberge et d'en faire tout de même une auberge réservée à lui seul. Et puis l'hôtesse était charmante, et puis Pipo le sollicitait de ses jappements plaintifs et joyeux, et puis ce coin lui faisait revivre au cœur toute la poésie de sa jeunesse. Bref, mon cher lecteur, Pardaillan ouvrit les bras, Huguette s'y jeta toute tremblante et pleura longtemps. Ni ministre, ni chef d'armée, ni maréchal, songeait Pardaillan, un bon bourgeois, voilà tout, et c'est bien assez. Un mois plus tard eut lieu le mariage d'Huguette, la bonne hôtesse, avec le chevalier de Pardaillan. Si Huguette fut glorieuse et heureuse, et fière et extasiée d'avoir un tel mari, c'est ce qu'il est à peine besoin d'affirmer. Quant à Pardaillan, il fut assez généreux pour se montrer plus heureux encore qu'Huguette. Il avait accroché sa rapière dans sa chambre, et ce n'est que lorsqu'il était seul qu'un soupir lui échappait parfois, et alors il s'interrogeait, et il était bien forcé de s'avouer que ce bonheur paisible ennuyait un peu le chevalier errant, l'aventurier, le chercheur d'inconnus qu'il n'avait cessé d'être. Au mois de décembre suivant, Pipo mourut d'an et de félicité. Il mourut des suites d'une indigestion, ayant un soir dévoré une dinde que, fidèle à ses vieux instincts de maraudeur, il avait volée dans un placard. La pauvre Huguette ne devait pas jouir longtemps du bonheur qu'elle s'était créé par sa gentillesse et sa gracieuse constance. À peu près à l'époque où mourut Pipo, elle gagna un refroidissement et déclina rapidement. Pardaillan s'installa à son chevet, dormant à peine quelques heures par-ci par-là, et soignant la bonne hôtesse, non pas même comme un bon mari ou un bon frère, mais comme un amant passionné. Si bien qu'Huguette eut une agonie merveilleuse de bonheur. Malgré tout, elle avait jusque-là douté de l'amour du chevalier. En le voyant si désespéré, si empressé aux mille soins de sa maladie, toujours là, toujours s'ingéniant à la consoler, à la faire rire, à lui prouver qu'elle vivrait et serait heureuse, elle ne douta plus, et dès lors, elle fut en effet parfaitement heureuse. « Ah, chère amie » murmurait-elle parfois, « que ne puis-je mourir 100 fois pour avoir 100 agonies pareilles ?» Elle mourut pourtant, la bonne hôtesse. Elle mourut, ses jolies lèvres souriantes, le visage extasié de bonheur et d'amour. Elle mourut dans un baiser que son cher, son grand ami, comme elle disait, imprima sur sa bouche à l'instant suprême. Elle mourut, disons-nous, sans secousse et sans souffrance, demeurée enfant jusqu'au bout, comme une enfant qui s'endort dans un beau rêve. Le chevalier ferma pieusement ses yeux, qui tant de fois lui avaient souri. Il pleura pendant des jours et des jours. Les heures qui suivirent l'enterrement de la bonne hôtesse furent pour lui des heures de détresse et de désolation, et il en arriva à souhaiter la mort, lui aussi, afin d'échapper à cette angoisse de sa vie, maintenant si navrée. Peu à peu, cependant, ses impressions s'atténuèrent. Un mois après la mort d'Huguette, Pardaillan ouvrit le testament qu'avait laissé la bonne hôtesse. « Je laisse mes biens, meubles et immeubles, à mon bien cher époux, le chevalier de Pardaillan. » C'est par ces mots que commençait le testament. Suivez les numérations des 10 biens, meubles et immeubles, dont le total faisait la somme ronde de 220 000 livres. Pardaillan parcourut alors ce qui avait été l'auberge de la Devinière et assembla quelques menus souvenirs, notamment un petit portrait d'Huguette qu'il fit enfermer dans un médaillon d'or. Puis il se rendit chez le premier tabellion, lui montra le testament et lui déclara qu'à son tour, il faisait don des 10 biens, meubles et immeubles, aux pauvres du quartier Saint-Denis. L'auberge de la Devinière fut donc transformée en un hospice pour vieillards et indigents. Pardaillan avait stipulé que la grande salle et la cuisine demeureraient intactes et qu'une partie des rentes serait affectée à la confection quotidienne d'une bonne soupe qui serait distribuée gratuitement aux misérables sans feu ni lieu. « Du moins, songeait-il, je ne pense pas que ma bonne hôtesse eût voulu faire un meilleur emploi de son argent. » Ayant ainsi arrangé son affaire, Pardaillan monta à cheval et sortit de Paris. C'était par une soirée de février. Un petit vent piquant lui égratignait le visage. Il trottait sur la route et les sabots de son cheval résonnaient sur la terre durcie par la gelée. Où allait-il? Il ne savait pas, il allait, voilà tout. Une sourde et puissante joie montait dans ses veines comme la sève aux premiers bourgeons des arbres. Parfois, d'un appel de langue, il excitait son cheval. Pauvre, fier, seul, tout seul, il s'en allait au hasard, sachant bien, au fond, que partout sur la surface de la terre, il y a des orgueilleux et des méchants à combattre, et des pauvres êtres en l'honneur de qui c'est une infinie satisfaction de tirer au soleil la bonne rapière qui lui battait les flancs. Quelquefois, il murmurait ce mot qui semblait contenir toute sa pensée et résumer son passé, son présent, son avenir. Un mot qu'il prononçait sans amertume, avec une sorte de joie et de fierté, seul. Le soleil se coucha, le soir tomba. Le paysage était mélancolique et brumeux. L'espace s'étendait devant lui. Pardaillan s'enfonça vers les lointains horizons, seul dans la nuit qui venait, seul dans la vaste étendue où nul ne se montrait, seul dans la vie. Peu à peu, sa silhouette s'effaça au fond de l'inconnu.